Qu'est-ce que la communication subliminale? On l'appelle également aujourd'hui communication infraliminaire.
Il est possible que l'homme disparaisse et continue à faire des sottises, mais il faut déjà dès maintenant se préoccuper d'un relais possible.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Les savants de Marseille reprennent aujourd'hui leur rendez-vous mensuel qui aura lieu désormais le dernier vendredi de chaque mois. De nouveaux sujets plus politiques ou sociologiques seront abordés par la nouvelle équipe. Donc aujourd'hui, nous vous proposons un sujet particulièrement sensible, surtout pour les jeunes et spécialement pour les étudiants, puisqu'il s'agit de la réforme de l'université. Donc d'importantes manifestations étudiantes ont occupé nos rues ces derniers mois, alors que les médias tentaient de faire la part des choses entre le contenu de la réforme et les revendications des manifestants. Ce sujet est donc la source d'une vive polémique dont nous tenterons de vous faire connaître les tenants et les aboutissants. Pour cela, nous donnerons la parole à deux intervenants bien placés pour nous éclairer sur ce débat. Donc, d'une part, monsieur le professeur Hervé Izard, qui est vice-doyen de la faculté de droit et de sciences politiques, et d'autre part, mademoiselle Chloé Allary, qui est secrétaire générale de la section UNEF Aix-Marseille. Ce débat sera animé par trois doctorants, donc deux doctorants en droit public, mademoiselle Fleur Gioconti et monsieur Philippe Mouron, donc qui sont tous deux doctorants en droit à l'université Paul Cézanne, et moi-même, donc je suis Paul Marek, doctorant en économie, plus particulièrement en économie internationale et économie du travail, à l'université de la Méditerranée. Donc, dans un premier temps, je laisse la parole à Fleur, qui va nous présenter une anecdote sur l'histoire de l'autonomie de l'université en France.
Oui, donc, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, hein, dite loi Pécresse, promulguée le 10 août 2007, était annoncée comme l'une des plus importantes de la législature, selon le Premier ministre lui-même. Salué par certains, mais décrié par d'autres, au point d'entraîner un nombre considérable de grèves à la rentrée dernière, la loi Pécresse a cristallisé les oppositions autour du terme « autonomie », envisagé selon les perspectives comme la clé d'une meilleure gestion ou un générateur d'inégalités. Autonomie, donc. Autonomie toujours, serait-on tenté de dire, car il y a de cela près de 40 ans, la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, dite aussi loi Faure du nom de son auteur, visait déjà à garantir l'autonomie des universités. Cette loi est remarquable à plusieurs égards, en ce qui concerne son contenu et en ce qui concerne le contexte de son élaboration, ces deux éléments étant somme toute étroitement liés. Cette loi établit le principe d'une autonomie financière, pédagogique et administrative au bénéfice des établissements publics d'enseignement supérieur. Ils disposent ainsi de la liberté de répartir comme ils l'entendent leurs crédits. L'autonomie pédagogique conférée leur permet de déterminer le contenu des programmes, les méthodes pédagogiques ainsi que les modalités de contrôle des connaissances. Enfin, l'autonomie administrative s'entend de la faculté d'organiser librement leurs structures internes. L'autonomie, alors reconnue, connaît néanmoins une limite importante à travers le contrôle de l'État, exercé sous la forme d'une tutelle pouvant revêtir des formes variées. Outre l'autonomie, la loi Faure consacre également le principe de participation et de la pluridisciplinarité. Par ailleurs, ce texte doit être replacé dans son contexte, à savoir l'année 1968. La loi Faure, rédigée dans l'urgence, a été ainsi conçue comme une réponse à certaines des revendications de mai 68. Le législateur viendra compléter le dispositif mis en place en 1968 avec la loi Savary de 1984. Cette loi majeure regroupe universités et grandes écoles dans un même texte et prévoit une plus grande ouverture de ces établissements sur le monde extérieur. Ce bref rappel historique, à travers l'évocation de ces deux lois emblématiques en matière d'enseignement supérieur que furent la loi Faure et la loi Savary, nous montre que le débat actuel n'est pas nouveau. Parce que l'université n'est pas seulement l'affaire des universitaires, mais de la nation tout entière, le thème de l'émission d'aujourd'hui revêt une importance particulière et nous concerne tous. Et puisque j'ai évoqué la loi Faure, je ne résiste pas à l'envie de vous citer ces deux phrases passées à la postérité de ce serviteur de l'État que fut Edgar Faure. À ceux qui lui reprochaient son opportunisme et le qualifiaient de girouette, il répondait de manière laconique « Ce n'est pas la girouette qui tourne, mais le vent ». Ou encore, il affirma un jour « L'immobilisme est en marche et rien ne pourra l'arrêter ». Je laisse ces deux mots d'esprit à votre sagacité.
Merci Fleur. Donc nous allons réfléchir mûrement sur ces quelques remarques. Et tout de suite, nous allons lancer le premier micro-trottoir pour essayer de voir un petit peu ce que pensent des personnes interrogées dans la rue de manière aléatoire de la loi LRU.
Que dirais-tu d'une sélection à l'entrée de l'université ?
Ben, je trouve que c'est quelque chose de totalement illégitime, puisque l'université, normalement, est ouverte à tous, comme l'école primaire, le lycée, le collège, c'est fait pour tout le monde, quoi.
Ben, pareil, je pense que c'est pas du tout légitime. Il y a assez d'écoles privées comme ça, c'est assez cher, c'est assez... on choisit assez les gens, et c'est pas pour en plus le faire à l'université, quoi. On n'en a pas besoin. Si on vient là, c'est que c'est assez libre, et on aimerait bien que ça reste libre, quoi, comme l'entrée libre.
Ben, y a déjà une sélection au niveau du bac, et je crois que c'est un des derniers... Enfin, pour beaucoup, l'université, c'est un dernier recours, quoi. Moi, je pouvais pas rentrer en prépa ou en école. Donc l'université, c'était un peu le dernier recours. Donc s'il y a une sélection en plus du baccalauréat, ça va être très dur de faire des études.
Donc quel est selon toi le rôle de l'université dans la société française ? À quoi ça sert l'université pour toi ?
À quoi ça sert ? D'apprendre des choses, d'en sortir avec un diplôme et de donner une chance à chacun de pouvoir développer ses connaissances et en apprendre un peu plus, quoi.
Merci beaucoup.
Honnêtement, avoir un boulot quoi à la fin, et en espérant pas y passer 8 ans comme c'est parti pour être.
Non, moi c'est pas forcément avoir un boulot, c'est la culture générale déjà. Et ouais, surtout la culture.
Pensez-vous que les universités françaises sont bien placées dans le monde ?
Je pense, ouais. Enfin, vu le niveau, on va dire, économique, je pense qu'elles sont bien placées d'un certain côté.
Il y a un classement qui est déjà fait des universités mondiales, mais c'est les critères, c'est les moyens, les moyens de donner à l'université, c'est pas du tout le niveau. Alors c'est, je sais pas vraiment quoi.
Oui, moi je pense que oui, par rapport à la au classement de Shanghai, visiblement non, mais moi je pense que ce classement de Shanghai ne reflète pas vraiment la réalité.
Non, apparemment on entend parler que genre en Angleterre tout ça c'est c'est mieux qu'en France.
Je pense que c'est plus égalitaire, quoi. C'est beaucoup mieux, plus de monde peut accéder, comparé aux autres universités où il faut avoir plein de thunes pour rentrer, quoi. Donc,
Moi, je pense que c'est au point de vue du critère qu'on prend. Ça dépend si on juge selon les critères d'argent ou de budget. Les entreprises anglaises, enfin les universités anglaises ou américaines. Sont meilleurs, mais en France, on a quand même les universités qui sont vraiment bien et accessibles.
Connaissez-vous les grandes lignes de la récente réforme de l'université ?
Ouais. C'est-à-dire pourquoi on a réformé...
Qu'est-ce qu'il y a dans la réforme ?
Qu'est-ce qu'il y a dans la réforme ? Eh bien, privatisation de l'université. Donc, c'est-à-dire que l'État, il prend plus, il se met plus dans... Il paye plus l'université, quoi. Et tout le monde se démerde, quoi.
Nous avons vu à travers ce micro-trottoir des réactions assez diverses, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le contenu même de la loi LRU est peut-être mal connu des personnes interrogées. Et donc je laisse la parole à Philippe Mouron, qui va nous présenter en quelques mots le contenu de cette loi pour nous éclairer un petit peu les idées.
Merci Paul. Donc bonjour à tous. Il me revient donc la charge de présenter dans ses grandes lignes la réforme de l'université. Bon, je pense que la première chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on lit cette loi, c'est qu'elle n'est qu'une base en fait. Ce n'est qu'un socle pour d'autres réformes qui vont être engagées dans les années à venir. Donc en vérité, elle arrête des questions assez techniques. Qui concerne l'administration et la gestion des universités, mais très peu de questions en ce qui concerne la vie étudiante, à proprement parler. Donc c'est déjà un point qui est important de connaître. Maintenant, quel est le contenu de la réforme à proprement parler? Je pense qu'on peut l'étudier rapidement en 5 points différents. Je dirais d'abord le point des principes. Alors la loi prévoit notamment une nouvelle mission que les universités doivent assumer, qui est l'orientation et l'insertion professionnelle. Donc nouvelle mission qui s'ajoute à la formation initiale, à la diffusion de la culture et de la recherche. Et c'est un élément très très important parce qu'on a souvent reproché à l'université de ne pas être assez proche du monde du travail. Or, l'université doit former des étudiants pour travailler, entre guillemets. La loi vise à donner des remèdes à cette lacune et nous verrons par la suite qu'elle donne les moyens d'un certain rapprochement avec le monde professionnel. La loi réaffirme aussi l'autonomie des universités. Rien de nouveau là-dessus. Et Fleur nous a déjà expliqué tout à l'heure que ce principe, en fait, est déjà assez ancien. Et la loi prévoit également un nouveau concept qu'on appellera la gouvernance des universités. Donc, gouvernance que nous allons étudier maintenant dans le deuxième point, qui concerne donc l'administration et la gestion des universités. Que dire rapidement ? Bien qu'en fait, le pouvoir va être recentré essentiellement autour du président de l'université et du conseil d'administration. Donc à ce titre, les pouvoirs de ces deux organes sont assez élargis. Leur mode d'élection a changé, mais bon, je vous passerai les détails. Ce qu'il faut savoir, bon, et qui a fait énormément débat, c'est que d'une part, le nombre de membres du CA, du conseil d'administration, est diminué, et que beaucoup plus de personnalités extérieures pourront en faire partie. Alors qu'est-ce qu'on entend par personnalité extérieure ? Ce sont des représentants des collectivités locales, donc des régions, des départements, mais aussi des professionnels. Là aussi, on voit rapprochement avec le monde professionnel, toujours dans l'objectif d'insertion professionnelle. Et corrélativement, le nombre de représentants étudiants a été diminué dans ce conseil. Bon, après, d'autres éléments plus techniques sont contenus dans la loi, notamment pour les deux autres conseils, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire, qui sont relégués à un rôle qu'on dira consultatif. Ils doivent seulement, essentiellement, donner des avis au conseil d'administration. Le troisième point qu'on peut évoquer concerne les nouvelles responsabilités des universités. Donc c'est même le titre de la loi, liberté et responsabilité des universités. 3 axes majeurs ont été présentés par la ministre. D'une part, l'autonomie financière. Donc c'est-à-dire que les universités maintenant seront gestionnaires d'un budget global pour toutes leurs composantes. Donc budget dont l'utilisation est assurée par le conseil d'administration. Et avec l'élargissement de ses pouvoirs, cela devrait permettre d'assurer une certaine politique en matière de formation et de recherche, notamment sur le long terme. Tout ça, l'objectif des dispositions de la loi. Le deuxième point concerne la responsabilité financière. Alors, qu'est-ce qu'on entend par responsabilité ? Le fait que, malgré tout, il faudra rendre des comptes. Donc, pour cela, les universités devront se doter d'instruments de contrôle qui permettront de contrôler l'utilisation des fonds qui est faite. Et elles devront quand même rendre des comptes devant le ministère, puisque les universités resteront liées par un contrat pluriannuel donc, qui fixera les objectifs et les moyens. Donc les universités restent liées quand même à l'État, qui assure toujours un contrôle. Bon, quelque part, on peut dire que ça rend assez illusoire l'autonomie, mais bon, ça c'est un point que nous laissons au débat. Le troisième élément donc, de ce troisième point concerne la gestion des ressources humaines. Bon, que dire rapidement ? Bien que un certain assouplissement est effectué pour les obligations de service des enseignants. Et d'autre part, le président pourra recruter sous contrat des personnes extérieures à l'université pour assumer certaines fonctions alors administratives ou même d'enseignement et de recherche. Alors là encore, il y a l'idée qu'on peut se tourner vers des professionnels, des gens qui peuvent bénéficier d'une expérience de terrain et qui pourraient en faire profiter aux étudiants, justement. Donc là encore, objectif d'insertion professionnelle, et on donne les moyens nécessaires enfin, atteindre cet objectif. Le quatrième point concerne davantage les étudiants. Hein, donc il y a quand même quelques dispositions relatives à la vie étudiante. Que dire rapidement ? Je retiendrai deux éléments essentiels. D'une part, l'inscription à l'université. Alors il faut savoir que la loi maintient le principe d'une liberté d'accès à l'université. Hein, il n'a jamais été question d'instaurer une sélection. Simplement, elle apporte une nouvelle procédure qu'on dira d'orientation au niveau des lycées, des élèves qui sont en terminale, qui leur permet en fait de faire des vœux donc sur la formation qu'ils désireraient faire, vœux auxquels un jury leur donnera des recommandations. Bon, si un tel n'a pas le niveau pour aller en médecine, on lui conseillera plutôt d'aller dans une autre discipline, dans une autre formation. Mais l'élève garde quand même la liberté de son choix. C'est quand même lui qui prendra la décision finale et il n'est pas obligé de suivre les recommandations qui lui ont été données. Le deuxième point concerne l'emploi des étudiants, puisque l'université pourra maintenant plus facilement recruter des étudiants pour leur faire assumer diverses tâches au sein de l'établissement. Alors, essentiellement, il s'agit de s'occuper de la bibliothèque, de faire du tutorat, de l'animation culturelle et sportive. Il y a certaines conditions qui ont été établies pour l'emploi de ces étudiants. L'idée est de les faire davantage participer à la vie de leur établissement, qui n'est pas un rôle passif, qui se limiterait justement à prendre des notes, à prendre des cours, mais qui participe aussi à la vie de l'établissement. Le dernier point qu'on peut invoquer concerne davantage des questions de patrimoine et de finances. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces éléments ? Bien que les universités pourront plus facilement prendre des participations dans des sociétés, créer des filiales, plus facilement créer des fondations également, des fondations pour une œuvre universitaire ou une œuvre de recherche. Alors, tout cela était déjà possible avant, mais les conditions sont largement assouplies. Et dernier élément à retenir, l'État va transférer la propriété des bâtiments aux universités. Puisque la plupart des bâtiments dans lesquels se déroulent les cours appartiennent à l'État. Bon, là, les universités vont devenir pleinement propriétaires de ces biens et pourront même les vendre, donc au titre d'une nouvelle source de financement, quelque part. Voilà, donc ce sont les points essentiels, je pense, qu'on peut retenir de cette loi. De manière générale, il faut savoir qu'il y aura toujours un contrôle de l'État, exercé soit directement, soit par le biais du contrat donc, d'objectifs et de moyens. Donc, justement, premier élément qu'on pourrait soulever, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une autonomie des universités ? On peut en douter. Bon, je pense maintenant qu'il est temps de donner la parole à nos deux intervenants qui nous donneront justement leur point de vue sur ces différentes questions.
Merci beaucoup, Philippe. Donc, pour résumer ton propos, cette loi semble consacrer la professionnalisation de l'université, si j'ai bien compris tous les points. Tout d'abord, il est clairement inscrit l'orientation et l'insertion professionnelle dans cette loi. Le conseil scientifique serait relégué à un rôle purement consultatif et n'aurait plus rien à dire dans la gestion de l'université. Des personnalités extérieures à l'université peuvent siéger au conseil d'administration. Création de fondations, donc possible financement de filières et de débouchés par des entreprises étrangères. Est-ce qu'on va en venir à des amphis qui portent le nom d'entreprises comme dans les universités anglo-saxonnes ?
Est-ce que cette
vision de l'université, et qui donc devrait se cantonner à créer des débouchés pour les étudiants uniquement, est-ce que c'est acceptable en l'état ? Et c'est le point du premier débat, donc qui va opposer Monsieur Isard et Mademoiselle Alary. Est-ce que la professionnalisation du monde universitaire est souhaitable ? Voilà. Donc je laisse d'abord la parole à Monsieur Isard qui va nous donner son point de vue et viendra ensuite le tour de Mademoiselle Alary.
Est-ce que la professionnalisation est souhaitable ? Oui, bien sûr qu'elle est souhaitable, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera unique et que ce sera le seul principe ou voie d'action. Il faut bien prendre acte que les universités sont des opérateurs qui participent à la formation supérieure et à la recherche supérieure, et que la formation supérieure, ce n'est pas uniquement former des savants en mathématiques ou en physique quantique, c'est aussi former des étudiants à intégrer le tissu économique, l'entreprise, à construire une vie et à devenir des citoyens actifs, mais aussi éclairés. Donc la professionnalisation, je ne pense pas que l'on puisse l'exclure. Il ne faudrait pas en faire le principe unique et directeur, mais il ne faudrait pas non plus l'oublier. Ce serait navrant que l'université fabrique que des chômeurs.
La professionnalisation des universités, c'est quelque chose qui fait un peu peur, mais c'est sûr que c'est le rôle de l'université de fournir à chaque jeune un diplôme qui va pouvoir lui permettre de s'insérer sur le monde du travail et donc d'avoir un diplôme qualifiant. Le rôle de l'université, c'est pas juste la professionnalisation, c'est donner un diplôme, c'est d'avoir accès au savoir, c'est aussi permettre la progression sociale, c'est-à-dire que le but de l'université, c'est que chaque personne puisse y avoir accès, quelle que soit la classe sociale. Je pense qu'il y a deux rôles. Il y a à la fois les connaissances, le rôle de moteur social et effectivement l'insertion dans la vie professionnelle. Quand vous dites que l'université ne doit pas produire que des chômeurs, ben non, c'est pas l'université qui crée le chômage. L'université, elle n'est pas la responsable de tous les maux. C'est pas en professionnalisant un maximum les universités qu'on va réduire le problème du chômage. Je pense que c'est un problème en amont et c'est justement ce que montre quand on fait un plan licence. Ça montre que c'est le système qui a un problème, c'est pas les étudiants qui font n'importe quoi.
Donc si j'ai bien suivi, deux visions s'opposent. D'une part, une vision où il faut rendre l'université proche du monde du travail pour bien, entre guillemets, rendre compatible la formation étudiante avec les besoins de l'entreprise. D'un autre côté, il y a une vision qui est l'université doit rester un pôle de savoir et ne doit pas forcément être calqué sur les besoins des entreprises, mais rester un pôle de connaissances générales et que c'est une d'utilité publique d'avoir des universités qui délivrent une connaissance générale et puis ensuite l'insertion sur le marché du travail se fera naturellement.
Ceci dit, je voudrais préciser une chose. Il ne me semble pas que nous soyons si si opposés dans notre point de vue. C'est peut-être une question de proportion. Il est bien évident que l'université doit participer à la construction d'un citoyen éclairé, et c'est d'abord sa vocation. Mais je pense qu'elle doit aussi participer, et mademoiselle semblait également considérer ceci, participer à la formation de professionnels opérationnels, leur permettant d'intégrer le tissu économique. Ce n'est pas tant pour permettre à l'entreprise de trouver les moyens de son développement que de permettre à l'individu de trouver au travers de l'entreprise un moyen de développement qu'il s'agit de considérer l'action des universités de ce point de vue.
Je pense que le problème de la professionnalisation, c'est la professionnalisation à outrance, c'est-à-dire au final d'avoir un diplôme qui est valable pour telle entreprise. Et donc d'avoir des jeunes très archi spécialisés et de pas pouvoir, d'avoir un diplôme juste pour une entreprise, mais je sais pas si l'entreprise ferme ou si la personne veut changer de travail, de pas pouvoir le faire parce que finalement on aura un diplôme fait pour une certaine entreprise et pas pour quelque chose d'autre, qui finalement une base de savoir commune pourrait permettre de s'adapter.
D'abord, envisager un parcours professionnel pour une entreprise, je ne dis pas que c'est impossible, mais enfin c'est quand même relativement difficile à concevoir. Ça suppose nécessairement une formation générale. La licence est faite pour ça. Aujourd'hui, la complexité du monde est telle qu'il faut, pour le comprendre, que ce soit du point de vue économique, du point de vue physique, du point de vue sociologique, il faut au moins 3 ans d'apprentissage fondamentaux. Ensuite, on rentre en master sur 2 ans. Alors, on pourrait peut-être imaginer des masters ultra professionnalisés à l'attention d'une entreprise, mais enfin, ça va représenter 5 ou 6 masters sur le plan national. Je ne pense pas que le risque soit majeur. Puis ensuite, il faut prendre aussi acte qu'une formation, eh bien, elle n'est pas nécessairement construite pour les siècles et des siècles. Elle doit pouvoir évoluer, disparaître au bénéfice d'autres formations. Et si une entreprise a besoin de former ou de demander à l'université de former une centaine de spécialistes, mais profitons-en. Et ça n'ira, à mon avis, pas beaucoup plus loin, quoi.
C'est pas l'entreprise qui doit gérer l'université, c'est-à-dire que l'université, elle n'est pas là pour répondre aux besoins fixes de l'université. Et c'est justement ça ce qui fait un petit peu peur dans la loi. Enfin, un des points qui fait peur, on entend dire que la loi, c'est la privatisation de l'université. C'est un petit peu gros de balancer ça comme ça. Mais quelque part, quand on voit que les entreprises financent les universités à travers une fondation par laquelle les entreprises ont donné directement des sous à l'université, oui, bah, et qu'en plus ils sont représentants, plus représentants au CA, enfin, pourquoi ce n'est pas eux qui géreraient la politique de l'université à la place des étudiants qui sont moins écoutés? On parlait du CS qui a un rôle consultatif, on parle aussi du CVU, où le CVU, c'est le Conseil des études de la vie universitaire. C'est là où on gère tout ce qui a trait à la pédagogie étudiante, à la vie étudiante, qui concerne directement les étudiants. Au Conseil d'administration, donc c'est ce qui vote la politique globale de l'université, il y a également moins d'étudiants. En contrepartie, ça veut dire que le monde du travail rentre plus dans les entreprises et que les gens qui bénéficient directement des universités sont moins écoutés au profit des gens qui vont bénéficier... Après, si je veux dire, mais ce n'est pas les usagers directs de l'université.
Alors, ce ne sont pas les usagers directs, mais enfin, il me semble utile de les écouter. Alors, ils rentrent plus, je dirais qu'ils rentrent enfin. Ils ne sont pas les seuls membres de ces conseils-là. Au résultat, les universités sont pilotées par des dizaines de gouvernants. Il y a des représentants des étudiants, des représentants des personnels administratifs, des représentants des enseignants et des collectivités territoriales. Et peut-être demain, des représentants de l'entreprise. Parfois, c'est un tout. Ça constitue une société qui doit échanger, qui doit évoluer, qui doit penser au mieux des intérêts de tous, et en particulier des étudiants. Ça me semble avoir une vision bien catastrophiste que d'imaginer que parce qu'il y aurait deux ou trois représentants de grosses sociétés, l'université française serait vendue au grand capital. C'est absolument pas ça. L'État, à l'instant où l'on parle, a plutôt l'intention... Eh bien, de continuer un effort, et c'est tant mieux, on en a vraiment besoin, et pas nécessairement de se retirer immensément et de privatiser l'université française. Je crois que le risque est quand même plus théorique que réel.
Il me semble que un des points de crispation a été la peur de la suppression de certaines filières, de marginalisation de certaines filières qui seraient peut-être moins professionnalisantes. Et j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Est-ce que clairement, les filières de sciences sociales arrêteraient d'être financées parce qu'elles ne créeraient pas des profils compatibles avec les besoins des entreprises.
Bah, c'est pas clairement l'objet de la LRU que supprimer les filières de sciences sociales. Enfin, c'est pas dit comme tel. Je pense pas que demain, il y ait plus de filières de sciences sociales. Nous, ce dont on a peur, c'est que le rôle des entreprises dans l'université, c'est que l'université est pour mission d'être rentable. Et effectivement, quand on est rentable, on va un petit peu moins mettre d'argent dans un master de philo que dans un master d'éco ou de sciences dures. Je pense pas que demain il y ait plus d'enseignement de philo à la fac. On n'est pas là.
Oui, je pense aussi que c'est tant mieux que tout ce qui n'est pas immédiatement rentable, parce qu'en vérité, rien n'est rentable dans cette affaire. Une université ne fabrique rien qui se vend. Elle forme des gens qui peut-être participeront à la sphère de production, mais pas uniquement. Donc, si l'on devait fermer tout ce qui n'est pas rentable, on fermerait l'université française. Bon, donc je crois que là, il faut être raisonnable. Ceci dit, c'est vrai que la question peut être posée. On a certaines filières qui ne sont pas immédiatement professionnalisantes, parce qu'elles ne peuvent pas. La philosophie, par exemple, ça n'aurait pas grand sens. Est-ce que ça doit disparaître? Évidemment non. Est-ce que ça va disparaître? Je ne le pense absolument pas. Est-ce qu'il faut peut-être quand même rationaliser toute cette offre, y compris pour les filières professionnalisantes? C'est envisageable, c'est peut-être ça. Il y a peut-être un juste milieu entre l'existence, le développement et la disparition de filières. Il y a peut-être un axe d'une meilleure organisation de tout ceci. L'université française... C'est une machine qui est dévorante et dévoreuse de moyens. Elle produit aussi de la richesse. Il faut peut-être trouver un équilibre dans tout ça.
Rationaliser, ça veut dire sélectionner.
Oui, enfin, qu'est-ce que ça veut dire sélectionner? Ça veut dire choisir, rationaliser. Si l'on ne peut pas tout avoir, il faudra peut-être choisir.
Ok, il me semble qu'on est en train d'anticiper sur le prochain débat. Donc, il semble néanmoins qu'il y ait peu de réponses aux défis futurs de l'université dans cette loi. Il y a peu d'éléments concernant le financement des universités. Comment elles vont être financées? Est-ce que le financement sera toujours public principalement? Ou est-ce que sera-t-il privé? Proviendra-t-il de frais d'inscription élevés? Tout ça n'est pas abordé dans la loi. La sélection à l'entrée n'est pas non plus abordée dans la loi. Et donc il y a beaucoup de questions qui demeurent en suspens. Et d'ailleurs, la loi LRU n'est de l'aveu même de la ministre, qu'une première étape dans la réforme globale des universités. Il y aura encore plusieurs chantiers à venir. Il est évident que les futures réformes qui aura lieu au sein de l'université seront probablement directement inspirées de systèmes qui sont déjà en place à l'étranger. Et donc, on va en venir au prochain thème, qui est l'étude des différents systèmes universitaires à l'étranger. Mais d'abord, avant de commencer avec l'intervention de Fleur sur ce thème, nous allons écouter le deuxième micro-trottoir.
Les frais d'inscription dans les universités américaines, ça va de 5 000 à 30 000 euros. Qu'est-ce que tu en penses ?
Bah, je pense que c'est pas normal qu'on ne puisse pas accéder, que tout le monde ne puisse pas accéder aux études supérieures. Et je pense qu'en France, on avait un bon système. Enfin, le bon système, je ne sais pas si c'est le bon système, mais je pense que réduire les frais d'inscription, c'est vraiment bien. Et de pouvoir accéder à l'université pour tout le monde, quoi.
Je trouve que c'est très bien dans la mesure où ce n'est pas une sélection par l'argent. Si vous mettez les droits d'inscription élevés qui vont permettre aux étudiants de travailler de manière correcte dans une université, c'est bien. C'est bien aussi à condition que ces étudiants aient des bourses qui leur permettent de payer ces frais d'inscription à l'université. Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis absolument pas pour la sélection par l'argent, mais quand vous voyez que les droits d'inscription dans une université française sont de 250-300 euros, que voulez-vous que l'université fasse avec une population de plus en plus importante qui vient pour suivre les formations universitaires ? On ne peut rien faire, on n'a pas d'argent. L'université est misérable, l'État ne donne pas d'argent, donc il faut bien trouver quelque part. Alors si on ne veut pas augmenter les droits d'inscription, si on ne veut pas que les fondations, le privé aide l'université parce que c'est le diable qui rentre dans la maison, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais plus.
Les conditions matérielles d'études en France vous paraissent-elles satisfaisantes ?
Ça fait très longtemps que je ne suis pas étudiant, moi, donc...
Dans ce que vous en avez su, des médias, des...
Bah, apparemment, non. D'après ce qu'on entend, non. Donc, notamment au niveau des installations, etc. Donc, moi, je pense surtout qu'il faudrait plutôt mettre bien en adéquation les besoins des entreprises avec les formations qui sont suivies dans les facultés, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des fois, il y a un petit écart entre les filières qui sont suivies par les jeunes. Et puis en fait, le marché du travail, quoi. Donc c'est bien beau, on va faire quelquefois des études longues, et avec au bout du compte, sans déboucher, quoi. Donc beaucoup mieux mettre en adéquation les besoins des entreprises, même régionalement, avec les universités, etc. Je serais un petit peu pour ça. Maintenant, voilà, un regard extérieur, mais...
Non, pas du tout, non. Je pense que les infrastructures sont déjà en très mauvais état. Qu'il n'y a pas d'effort donc qui est mis. Bon, moi particulièrement, je suis en art plastique par exemple, les ateliers sont dans des états pitoyables. Voilà, je dirais qu'il y a des secteurs comme ça qu'on laisse un petit peu mourir.
Avez-vous trouvé légitime la mobilisation des étudiants contre la réforme LRU ?
Ouais, c'est légitime, mais je trouvais qu'il y en avait qui abusaient un peu, quoi, dans le sens où bloquer les facs alors qu'ils étaient une minorité, des trucs comme ça, c'était pas vraiment démocratique, quoi, on va dire.
Non. Non, parce que déjà, sur la forme, je pense qu'il y a peut-être d'autres manières d'agir. Je suis pas du tout d'accord avec la forme qui a été utilisée, notamment de prendre aussi en otage des étudiants qui n'étaient pas grévistes. Donc ça, je trouve la forme, je suis pas du tout d'accord avec. Maintenant, après, sur le fond, a priori, moi, ce qui était engagé... peu que j'ai pu voir, ça me paraissait pas si mauvais que ça. Maintenant, il y a peut-être matière à discussion, ça c'est clair. Après, sur la manière de faire, non, pas du tout d'accord.
Avez-vous trouvé légitime la mobilisation des étudiants contre la réforme LRU ?
Tout à fait. Dans le sens où je pense que ça va être très difficile déjà pour un étudiant de pouvoir se payer ses études. La vie est de plus en plus chère, d'une part. Il y a énormément d'étudiants qui s'assument seuls. Et en même temps, comme conséquence, j'imagine que ça va créer une sélection financière. Voilà, donc l'université ouverte aux gens qui ont de l'argent et puis les autres, tant pis pour eux.
Merci beaucoup.
À entendre les réactions, beaucoup de craintes sur la sélection. Sur les frais d'inscription, est-ce que l'université continuera à être ouverte à tous ? Je vous propose, dans un premier temps, d'écouter la douce voix de Fleur qui va nous parler des systèmes étrangers. Ça nous donnera peut-être un indice sur ce qui pourrait être mis en place en France avec les futures réformes à venir.
Oui, on constate, en fait, on part du constat que chaque année, des docteurs, après l'obtention de leur doctorat, partent, sont recrutés à l'étranger. Cependant, il n'y a vraiment aucune statistique précise, aucune statistique n'est publiée sur un site officiel, donc il est assez difficile d'évaluer l'université et la recherche française. Donc cette fuite des cerveaux témoigne de l'existence d'un marché mondial de la formation où les étudiants et les chercheurs deviennent de plus en plus mobiles. La comparaison des systèmes universitaires entre eux et leur évaluation deviennent alors primordiaux pour améliorer les performances des universités et les rendre plus attractives. La classification de Shanghai, bien que contestable dans sa méthode d'évaluation, nous appelle à nous interroger sur la place qu'occupent les universités françaises dans le monde. Il n'existe pas réellement de modèle antagoniste ou opposé. En effet, la question de l'autonomie des universités préoccupe la plupart des pays étrangers. Il ne s'agit pas d'une problématique qui serait française ou européenne, mais une problématique qui touche tout le monde. C'est une problématique mondiale. Donc, on va voir que l'autonomie est, somme toute, très relative. Elle varie, en fait, d'un pays à l'autre. Donc avant de vous présenter les modèles allemands et italiens, je commencerai par un pays qui a fait des choix très clairs en matière d'éducation et ce sont des choix qui sont très controversés, donc je commencerai par les États-Unis. Donc le système universitaire américain est un système mixte où cohabitent des établissements publics largement majoritaires et des établissements privés. La constitution américaine étant muette sur ce point, l'éducation relève de la compétence des États fédérés. La diversité des statuts des établissements est particulièrement remarquable aux États-Unis et en fait on ne peut pas faire de généralité sur leur autonomie. Par exemple, on voit que l'université du Michigan et de Californie voient leur autonomie garantie par la constitution de ces États. En revanche, la City University of New York est financée à la fois par l'État de New York et par la ville de New York. Les universités privées, elles, sont toujours indépendantes parce que leurs revenus proviennent essentiellement des droits d'inscription qui peuvent aller jusqu'à 43 600 $ par an, des dons et aussi des capitaux propres. Donc, à titre de comparaison, le fonds de dotation d'Harvard, avec ses 30 milliards de dollars, représente ainsi des montants qui sont nettement supérieurs au budget global du CNRS. La diversité des établissements provient aussi de l'existence d'une variété d'universités et de collèges. Les community colleges sont des institutions qui proposent des formations professionnalisantes de courte durée, de 2 ans. Et à côté de ça, on va trouver des collèges d'une durée de 4 ans et des universités doctorales qui, elles, sont les plus prestigieuses et les meilleures. Donc, les situations aux États-Unis, enfin, la situation des universités peut vraiment varier d'un État à un autre. La diversité des établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis s'entend comme un corollaire de la compétitivité. Les universités sont en concurrence, les unes avec les autres, et chercher à attirer les meilleurs étudiants afin de maintenir ou acquérir une réputation prestigieuse. Donc, la sélection à l'entrée des universités est couramment appliquée selon des critères qui sont très concrets. On va prendre en compte les résultats scolaires, mais aussi la motivation, les performances sportives, le leadership. Le milieu social défavorisé peut être aussi un avantage parce qu'il démontre une certaine détermination et une forte volonté de réussite. Et à cela s'ajoutent aussi des politiques d'affirmative action qui permettent d'avantager des candidats issus de minorités raciales. Donc la concurrence entre universités se fait également ressentir pour l'attribution de contrats de recherche passés avec les entreprises privées. Donc cette préoccupation concurrentielle, cette volonté de rendre toujours l'université plus prestigieuse, est-ce que c'est une problématique qui n'est propre qu'aux États-Unis ? Non, on voit bien que la logique économique s'immisce aussi dans des universités d'Europe continentale. Par exemple, on peut se demander quel est le rôle que joue l'Union européenne. Est-ce que c'est l'Union européenne qui impose une harmonisation ? L'Union ne joue qu'un rôle assez limité, puisque les traités laisse les États membres libres d'organiser leur système universitaire. L'Union a une neutralité qui est assez remarquable puisque, pour elle, les services d'enseignement sont exclus du champ d'application du droit communautaire de la concurrence. Donc, l'Union européenne n'impose aucune harmonisation en ce qui concerne l'éducation. Hein. Cependant, l'autonomie, c'est une notion qu'on va retrouver dans plusieurs pays européens. Et c'est une notion qui est bien acquise pour certains pays. Par exemple, pour l'Allemagne, c'est le cas. En Allemagne, le gouvernement a établi un projet de loi en 2007 dans le cadre de la réforme du fédéralisme, supprimant la loi cadre sur les universités et visant à accentuer l'autonomie de celle-ci. Outre Rhin, les universités sont essentiellement publiques, hein, et en vertu de la loi fondamentale, leur financement provient des Länder. Donc avant la réforme de 2007, les universités allemandes jouissaient déjà d'une liberté, d'une certaine liberté. Elles ont la personnalité morale, elles bénéficient d'une autonomie de gestion du personnel et des ressources. Mais ce qu'essaye de faire l'Allemagne actuellement, c'est encore de réduire encore plus ce contrôle exercé par les Länder. Et l'Allemagne tente de rechercher des financements plus diversifiés, c'est-à-dire des financements qui pourraient être d'origine privée. Et donc, en 2006, le gouvernement fédéral déclarait à propos de cette réforme, par la suppression de la loi cadre sur les universités, nous signifions clairement que la politique fédérale a aussi fait le choix de la concurrence et de la diversité en matière d'enseignement supérieur. C'est assez clair, c'est assez représentatif de l'esprit. L'Italie, elle, pour sa part, conserve une organisation de l'enseignement supérieur qui ne va pas s'en rappeler la nôtre, hein, c'est proche de la France, puisque les universités sont très largement publiques, c'est-à-dire financées en grande majorité par l'État. En réalité, il existe des universités dites privées et des universités libres en Italie, mais elles sont très minoritaires. Et les frais de scolarité en Italie vont varier entre 800 et 1500 euros, donc c'est assimilable à peu près à des frais de scolarité que l'on connaît en France. En revanche, la différence qui existe, la différence qu'on peut noter entre la France et l'Italie, c'est que l'autonomie des universités est reconnue depuis 1948 par la Constitution italienne. Et les universités bénéficient d'une autonomie administrative, financière, budgétaire et depuis 2000 pédagogique. C'est-à-dire qu'elles peuvent mettre en place une sélection à l'entrée des universités selon les critères qu'elles auraient elles-mêmes choisis. Donc on voit bien à travers l'exemple donné par ces différents pays, que l'autonomie des universités est polymorphe et que surtout l'autonomie et la privatisation ne sont pas synonymes. Hein.
Pour résumer le propos, il me semble que beaucoup d'universités dans le monde et le modèle dominant est un modèle d'université autonome, mais que la modalité d'autonomie est très différente entre les pays. Il y a par exemple un modèle anglo-saxon où les universités sont autonomes, il y a une sélection très dure à l'entrée de l'université, une très forte concurrence entre universités, des frais d'inscription très élevés et un financement qui est majoritairement privé et moins public. Il peut aussi y avoir des universités autonomes, donc un modèle peut-être plus européen, où les universités sont autonomes, mais le financement provient quand même en grande partie du public, avec une sélection moins importante à l'entrée, des frais d'inscription plutôt faibles. Et donc finalement, le fait que les universités soient autonomes ne nous dit pas forcément grand-chose sur toutes ces questions de financement, de sélection à l'entrée. Exactement. Et donc, je laisse la parole à nos deux intervenants, où ils vont confronter un petit peu ces deux modèles. On va voir les avantages, les inconvénients, et ça va nous éclairer, j'espère.
Espérons. Ceci dit, comparaison n'est pas raison, c'est-à-dire considérer un autre système dans une autre société sur une autre logique ne nous renseigne pas nécessairement sur la nécessité de l'adopter. Quoi, la France a inventé, et ce depuis le Moyen-Âge, un mode particulier d'université. L'autonomie, ce n'est pas une réalité nouvelle, hein, c'est très très ancien, ce principe selon lequel les universités ou les facultés doivent être libres de leur destin, de leur démarche. Donc là, je crois qu'on est sur une tendance qui est déjà très ancienne. La particularité de l'université française, elle réside peut-être dans le fait qu'elle est publique principalement. Il existe des universités privées, mais c'est vraiment très à la marge en France, donc l'université publique, gratuite ou quasiment gratuite. C'est vrai que les droits d'inscription sont en France les moins élevés quasiment d'Europe, et laïque aussi, évidemment, comme l'est la République. Ceci dit, l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Donc, il n'est pas question pour les universités de faire tout ce qu'elles veulent et elles sont soumises à la loi. L'autonomie, c'est l'autonomie financière, c'est potentiellement l'autonomie pédagogique, l'autonomie de recrutement. Enfin, c'est extrêmement pluriel. Et on voit les variations sont à ce niveau. Tout le monde est autonome, mais dans des proportions ou sur des réalités différentes. Et c'est là que doit porter le débat. Donc moi, je pense qu'on a un modèle français qui a d'énormes avantages et qui a aussi quelques faiblesses que l'on peut corriger. La loi devrait peut-être les permettre d'aller vers le mieux, mais je laisse à mademoiselle de nous dire quelle est sa vision des choses.
Donc effectivement, on ne peut pas trop comparer le système américain au système français. Enfin, c'est deux philosophies tout à fait différentes. Et moi, personnellement, je pense que le modèle américain n'a pas à intervenir dans le système français sur plusieurs points, notamment sur le fait que les facs soient privées, les facs, il y a de la concurrence entre les universités. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'une licence, une licence de bio à Avignon, une licence de bio à Marseille, une licence de bio à Brest ou à Paris 5, ou enfin n'importe où en France, on n'aura pas la même valeur. C'est-à-dire qu'un étudiant français qui a un diplôme reconnu par le système LMD, alors qui paradoxalement, cette réforme a accentué les inégalités entre les facs, ça veut dire qu'avec les facs qui se font de la concurrence l'une contre l'autre, qu'un diplôme n'est pas reconnu nationalement, et donc on n'a pas la même égalité des droits quand on arrive sur le marché du travail. D'autre part, pour ce qui est du financement des universités, donc nous on n'est pas contre le fait que ce soit les entreprises qui financent l'université, non, parce que c'est les entreprises qui au final vont bénéficier de la formation qui est fournie par les universités, mais les entreprises elles ne doivent pas financer directement l'université, elles ne doivent pas faire un chèque à l'université à Aix-Marseille 2, Aix-Marseille 1, Aix-Marseille 3 ou n'importe quelle université pour dire ben voilà, votre politique elle me plaît et c'est ça que je veux. L'entreprise, oui, elle doit avoir des taxes sur l'université qui doivent être centralisées après d'un point de vue national et qui doivent être redistribuées sur l'ensemble des universités de la France, sur tout le territoire, ceci pour l'égalité des universités, que toutes les universités puissent avoir les mêmes moyens et qu'il n'y ait pas des facs super riches, super prestigieuses qui vont fournir de méga diplômes très intéressants et qu'il y ait des petites facs qui restent sur le bord. Après, on parle aussi des frais d'inscription. Les frais d'inscription en France, ils existent. C'est quand même 300-400 euros. Ça dépend si vous êtes en licence, master, doctorat. Après, je fais une petite aparté pour dire qu'en France, il y a une politique des frais d'inscription illégaux qui a eu lieu il y a ces dernières années, notamment sur Aix-Marseille 3, où certaines formations allaient jusqu'à 8000 euros. Enfin, 8000 euros, c'est pas rien du tout, 8000 euros par an. C'est sûr que c'est pas la politique de toutes les universités. Mais pour ce qui est de revenir aux frais d'inscription fixés, parce que normalement les frais d'inscription sont fixés par un arrêté d'un point de vue ministériel, oui, on ne paye pas 30 000 euros en France, sauf que c'est quand même élevé et ça doit pas être augmenté. Il y a une précarité étudiante aujourd'hui en France. Je pense qu'on connaît tous les chiffres. Il y a un étudiant sur deux qui est obligé de se salarier pour financer ses études. Il y a 100 000 étudiants sur 2,2 millions qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 900 000 étudiants sur 2,2 millions toujours qui habitent encore chez leurs parents. Il y en a 700 000 qui le font par obligation parce qu'avoir un logement indépendant, c'est cher. Et qu'on a en contrepartie un système d'aide sociale qui n'est pas adapté à ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est une refonte du système d'aide sociale qui... D'une part, n'est pas assez conséquent. Enfin, même un étudiant échelon 5, même l'échelon 6, c'est assez dur. Enfin, à la fin du mois, il est toujours cric-crac, quoi qu'il en soit. C'est pour ça que même un échelon 6, il est obligé de obligé d'être salarié ou de bénéficier des sous de ses parents. Et de toute manière, il n'y a pas assez de monde qui touche cette aide sociale. Donc je vois mal comment on peut encore chercher à augmenter le financement des étudiants par l'université, alors que justement le rôle de l'université c'est d'être accessible à tous, et où les frais d'inscription c'est une sélection par l'argent, et qui dit, enfin sélection par argent c'est la reproduction sociale, et c'est quelque chose qu'on combat, évidemment.
Là où je partage l'analyse de mademoiselle, c'est qu'effectivement les universités n'ont plus les moyens de leurs ambitions, les ambitions grandissantes, on parle désormais de professionnalisation et autres, tout ceci a un coût, le suivi individualisé, des outils techniques de plus en plus coûteux, enfin, la formation, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût, et désormais, nous n'avons plus les moyens de couvrir ces coûts. Alors, là, évidemment que les frais d'inscription sont pour partie une solution aux problèmes financiers, ça ne peut être que marginal. Il est bien évident que l'université française ne doit pas sélectionner par la richesse, ça serait contraire à notre pacte républicain. Ceci dit, il est aussi logique que l'usager d'un service public puisse participer, en tout cas à la marge, quitte à être aidé, et c'est peut-être le système des bourses qu'il faudrait revoir. Bon, il est clair que le problème, c'est le problème des moyens des universités, que la question des frais d'inscription est associée à cette affaire. Il faut trouver un moyen de le financer, il n'a pas 50, hein. Soit c'est l'impôt, et là il y a quelques difficultés, soit c'est l'entreprise, et là il y a quelques réserves, soit c'est l'usager, et là il y a quelques réactions. Donc ça devient difficile, je crois qu'il va falloir envisager les trois voies, peut-être en concertation, en réflexion, en réaménagement, au travers de l'autonomie. Sachant que l'autonomie, c'est vrai que c'est la différence, c'est la liberté. La liberté, c'est potentiellement la concurrence. Et la concurrence, c'est également presque nécessairement la différence. Et que dans notre pays où l'égalité est un principe extrêmement fort, bien, imaginez, comme vous l'avez dit, des diplômes de valeur variable selon l'université qui les délivre, c'est quelque chose qui nous choque. Mais est-ce que ce n'est pas déjà un peu le cas ? Alors, il faudrait peut-être attention.
Si c'est le cas, il faut le revoir. Enfin, justement, le cadrage national des diplômes, c'est ça le but, c'est ça qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une égalité sur tout le territoire des diplômes. Enfin, oui, c'est le cas actuellement, mais il faut revoir ça.
Oui, mais la loi interdit, et de fait, il n'y a pas de différence entre une licence de philosophie et de l'université de Paris, d'une université parisienne ou l'université lyonnaise. Malgré ce, on sait qu'il y a des différences. On ne peut pas non plus lutter contre la réalité. Alors, faut-il continuer à l'obérer, à la cacher, ou doit-on peut mettre les choses à plat en disant, bon, s'il y a des différences, eh bien, mettons les moyens là où apparemment ils sont efficacement utilisés, où la formation est d'excellence, et puis sur un autre lieu, plutôt que de tout faire, faisons là où on est plutôt les meilleurs. Enfin, je ne sais pas, il faut peut-être s'autoriser à réfléchir à tout ça, puisque tout ne va pas exactement comme on le souhaiterait.
Je vous remercie beaucoup pour ce débat animé et vraiment très intéressant. Maintenant, nous allons nous tourner vers le troisième point qu'on voulait aborder. On va devoir être très concis, faute de temps. Donc, le troisième débat que nous voulions aborder était la réunification. Donc, c'est un enjeu, là, purement local. On va se tourner vers le local et se détourner du national. Donc, c'est la réunification des trois universités à Aix-Marseille. Donc, il y a trois universités, U1, U2 et U3. Et il est question, à l'horizon 2009, de réunir ces trois universités. Le constat est simple. Il y a un classement aujourd'hui qui est assez consulté, qui est le classement de Shanghai, qui classe les universités. Bon, ce classement est critiquable, c'est un classement qui est fondé sur la recherche. Et les universités françaises semblent très 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 mal placées dans ce classement. La meilleure université doit être 45e. Polytechnique, qui semble le fleuron d'enseignement supérieur français, n'est que 200e. Et clairement, il semble que les universités françaises soient désavantagées dans ce classement du fait de leur éclatement. Il y a peut-être 13 universités à Paris, et ces petites structures ne sont pas visibles au niveau international, et donc peinent à apparaître dans les classements internationaux. Et aujourd'hui, on est dans un système où la compétition est très très forte, où on cherche à attirer les étudiants étrangers brillants. Et donc une université qui n'est pas visible sur le plan international peinera nécessairement à attirer les étudiants brillants étrangers. Et donc face à ça, il y a plusieurs tentatives de réunification d'universités en France. Donc le projet le plus avancé aujourd'hui est la ville de Strasbourg, qui est en train de réunir ses universités. Et Aix-Marseille emboîte le pas. En France, il y a déjà des laboratoires d'économie à Paris qui sont réunis pour créer la Paris School of Economics, qui a donné aujourd'hui une structure bien plus visible au niveau européen. Et donc, on est en train d'expérimenter ça dans la région. Et je vais laisser la parole peut-être d'abord à Monsieur Izard, qui est un des artisans de cette réunification. Et on va essayer de voir un petit peu les craintes également que ça peut susciter.
Alors effectivement, le processus est en route. Il a été décidé il y a maintenant presque un an. Suite au constat que vous faites, c'est vrai que sur la région, nous avons trois universités, U1, U2, U3, qui chacune porte certaines facultés tout à fait identifiées, U3 pour le droit, U2 pour la médecine, et UEMP pour les lettres, pour faire très simple, mais chacune développe des actions qui sont également portées par l'autre, ce qui crée une concurrence un tout petit peu inutile ce coup-ci, et puis une utilisation des moyens pas nécessairement toujours rationnelle. Les enseignants ne trouvent plus trop leur place dans tout ceci, les étudiants n'y comprennent pas grand-chose, et il avait, me semble-t-il, une nécessité de voir si l'on pouvait retravailler ensemble pour travailler mieux, parce qu'on évoquait tout à l'heure la question des moyens. Faut-il des moyens en plus? Oui. Faut-il utiliser mieux ces moyens? Aussi. Donc l'unification vise, entre autres, à améliorer la lisibilité, la visibilité de ce que nous faisons au niveau régional, et nous n'avons absolument pas à rougir, même au niveau mondial. Hein, sur la région, nous avons des équipes de recherche ou des facultés qui sont tout à fait d'excellence. Elles sont noyées dans cet espace qui est bien trop grand et trop composite, et l'université unique permettra, eh bien, je l'espère, d'être plus visible au niveau national et au niveau mondial. Et un certain nombre de choses se dessinent et sont plutôt porteuses de ce processus qui est en cours. C'est extrêmement compliqué, très délicat, mais enfin, ça va se faire. Les bonnes volontés sont à l'œuvre et j'ai bon espoir de voir une université unique ex-Marseille naître d'ici quelques années.
Alors, je voudrais revenir sur plusieurs points. Le premier, c'est le classement de Shanghai. Alors, c'est un classement qui est fait pour classer l'ensemble des universités dans le monde. Il faut savoir que les bases de ce classement, c'est le nombre de prix Nobel qu'il y a eu dans les facs et le nombre de fois où des articles ont été publiés dans certaines revues très prestigieuses. Donc est-ce que c'est vraiment un classement qui reflète l'état de l'université? Est-ce que, enfin, je le pense pas. Je pense que c'est pas les prix Nobel et c'est pas les articles publiés dans Nature ou dans n'importe quelle revue qui va faire la qualité des diplômes. C'est pas non plus le rayonnement au niveau international, puisque apparemment c'est l'un des buts de l'unification de l'université, de faire une grosse université. C'est pas le rayonnement international qui va faire que les diplômes ils vont avoir de la valeur. C'est pas ce qui va faire la qualité de l'enseignement pédagogique. Donc, je suis un peu sceptique sur ce point. Ensuite, quand vous parliez tout à l'heure de la clarification, oui, je pense que ça, c'est un bon point, par contre, de la fusion. Notamment, oui, il y a 3 licences de bio aujourd'hui sur Aix-Marseille. Une à U1, une à U2, une à U3, avec des politiques différentes. Il y a 2 licences d'éco, une à U2, une à U3. En général, on est un petit peu perdu. Un étudiant qui sort du lycée, enfin, il sait pas trop comment choisir. Ouais, c'est flou. Notamment parce que le bon point de la fusion aussi, c'est que dans les 3 universités, il y a des inégalités financières. Elles ne sont pas toutes au même point. Donc pouvoir remettre ça en commun, donc là, c'est un bon point. Après, le problème aussi de cette fusion, c'est que la fusion est faite, mais sans les acteurs de l'université. C'est-à-dire que les étudiants ne sont pas les principaux acteurs de cette fusion. Et ça rappelle un petit peu le passage de la loi LRU qui est passé en août, cet été, alors qu'il n'y avait aucun étudiant sur les facs. Je pense que c'est une politique qui laisse assez sceptique. Et je pense qu'il va falloir faire très attention dans cette fusion sur les droits étudiants, les droits des personnels également, que ça ne soit pas revu à la baisse, et notamment parce que dans les 3 universités, il y a différents droits pour les étudiants. Et il faut que les étudiants arrivent à acquérir des droits et qu'on ne se retrouve pas avec plus de rattrapage, des notes éliminatoires partout, tout ce qui est spécifique aux étudiants.
Il ne faut pas aligner vers le bas, c'est pour reprendre une formule célèbre.
Non, mais nous pouvons envisager d'aligner vers le haut. Je prends acte de la remarque de mademoiselle. Le renouvellement des différents conseils au niveau des différentes universités a permis, en tout cas pour Paul Cézanne, de voir une participation étudiante très historique en termes de vote, eh bien, je suis sûr que nous allons pouvoir travailler ensemble avec les étudiants, les personnels administratifs. Il ne faudra oublier personne parce que c'est un projet d'immense envergure qui ne doit pas tracter vers le bas, mais au contraire, essayer de prendre ce qu'il y a de mieux chez chacun. Et il y a des choses qui sont intéressantes chez chacun.
Le problème, c'est que le bas et le haut correspondent. Enfin, le bas et le haut, ce n'est pas forcément la même chose dans la bouche des étudiants ou dans la bouche, dans la bouche d'un directeur du FR.
Bon, mais il va falloir en tout cas écouter tout le monde, permettre à tout le monde de s'exprimer et d'essayer de trouver et de prendre le mieux de tout ceci.
L'émission touche à sa fin et je tiens à remercier tous les intervenants pour les débats passionnants qui ont eu lieu, et je pèse mes mots. Donc tout d'abord, monsieur le professeur Hervé Izard, qui nous a apporté des éclairages vraiment intéressants, je pense, pour les jeunes étudiants qui nous écoutent. Après cette émission, j'espère qu'ils auront une meilleure connaissance de la loi LRU et des futures lois qui seront peut-être adoptées, qu'ils auront pu se forger une opinion sur les problèmes actuels que rencontre l'université et les possibles réponses qui peuvent y être apportées. Je remercie également Chloé Allary, qui également nous a apporté le point de vue de l'UNEF sur cette question. Et je pense que effectivement, la réforme se fera avec tous les acteurs syndicaux, dont l'UNEF. Et donc, il était important d'avoir le point de vue syndical. Donc, l'UNEF est le principal syndicat étudiant, et c'était important d'avoir l'avis de l'UNEF sur la question de la réforme universitaire. Et je remercie également les personnes qui ont préparé l'émission, Philippe Mouron et Fleur Gioconti. Et ça ne se fait pas beaucoup, mais moi-même également, qui a un petit peu travaillé à la réalisation de cette émission. Et à bientôt pour la prochaine émission.